En eau profonde. En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous allez suivre, bien-aimé, est donné par le pasteur Gadi Abraham, président fondateur du Centre évangélique Ebenezer. Il est professeur agrégé de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur. Nous allons voir ce matin la 9e porte et la 10e porte. La porte, la possession de notre héritage. Comme ça a été rappelé, la huitième porte, c'était la porte de Manaïm, qui est le camp de Dieu, le lieu où on passe par la formation également. Et ce matin, on voit la 9e porte, qui est la porte Péniel. Nous le trouvons dans nos Bibles, regarde dans nos Bibles, dans Genèse chapitre 32. Jacob s'éleva, on a mis ici, il s'éleva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 12 enfants et passa le gué de Jacob. Il les prit et les fit passer le torrent et il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interroge en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Il appela ce lieu Péniel et dit, car j'ai vu la face de Dieu et mon âme a survécu et mon âme a été sauvée. Jacob, du retour de chez Laban, après 20 ans de passé pour avoir ses deux femmes et avoir la richesse, il retourne maintenant dans la terre où se trouvait son père. Il retourne à Canaan, on verra ça tout à l'heure. Et il va après Manaïm, qui est le camp de Dieu, il va passer une autre étape. Et puis là, il va se retrouver seul. Et ce lieu, il va l'appeler Péniel. Péniel, c'est le lieu qui a appelé la face de Dieu. Et quand on voit bien l'histoire, il dit, un homme est apparu. Mais nous savons après que cet homme-là, ce n'était pas un homme naturel, c'était un ange de Dieu. Je rappelle que dans l'Ancien Testament, Dieu visitait beaucoup les hommes à travers ses anges. Et les anges n'ont pas cessé leur activité. Plus tard, Dieu voulait, l'année prochaine, on pourra faire un séminaire sur le ministère des anges. Quand vous avez la révélation sur le ministère des anges, vous avez une révélation très puissante. Vous voyez, je fais une parenthèse par rapport à cela. Malheureusement, l'enseignement a été mal compris et des gens, je ne critique personne, mais je dis parce que ce que je constate, on ne prie pas les anges. On prie Dieu, qui est le Père des esprits, qui est le Père des anges, qui contrôle les anges, de les libérer. On ne prie pas les anges. On prie Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ, seul. Mais là, les anges sont des esprits qui sont au service, des esprits qui sont au service des enfants de Dieu. Et Dieu libère ses anges pour sauver, même dans les temps actuels. Les anges ont un puissant ministère de délivrance, délivrant de beaucoup de situations. Mais ce n'est pas mon thème. Jésus voulait faire une parenthèse. Donc un homme vient et cet homme qui était un ange lutte avec Jacob. Et la lutte devient une lutte farouche. Et comme Jacob résistait, cet homme qui est l'ange de Dieu va le frapper, nous voit la bouche, nous voit la hanche. Donc Jacob va commencer à marcher comme ça. Vous voyez, la force d'un homme à ce niveau-là, aussi. Si vous vous souvenez des Jeux Olympiques, quand on doit soulever les poids, on attache une grosse ceinture et il faut avoir des hanches solides. Si vous n'avez pas des hanches solides, vous ne pouvez pas soulever un poids. C'est vrai ou c'est faux? Vous ne pouvez pas. Parce que la force se trouve là. Et quand votre force qui est ici a été touchée, vous vous sentez faible. Alors, on a beaucoup d'enseignements ici à découvrir à travers cette illustration que je viens de vous donner et l'explication que je viens de vous donner. Jacob a lutté jusqu'au bout, jusqu'au matin. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'es béni. Et j'aimais ce que Mme Magolé a dit. C'est, il y avait une puissance dans la volonté. On a déjà dit, on a déjà vu ça, mais c'est vrai. Jacob voulait vraiment être béni. Il voulait vraiment être béni. Il voulait la grâce. Il voulait que Dieu le touche. Vous savez, quand nous voulons quelque chose vraiment, nous finissons par l'avoir. Si ce que nous demandons, ce que nous voulons est bien, si c'est bon, agréable et parfait, on va l'avoir. Si une personne veut la guérison, elle va avoir la guérison. Si tu veux vraiment la délivrance, tu vas voir la délivrance. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Dans la foi, il y a une dimension de la volonté. Il y a une dimension du désir ardent. C'est pourquoi Dieu exauce les désirs ardents. Mais ce n'est pas tout à fait mon sujet, c'est juste pour m'expliquer que Jacob était un homme déterminé. Vous voyez, la porte de Peniel est une porte importante. Pourquoi? Mais parce que c'est cette porte-là, qui, c'est d'abord le lieu où on demeure seul. Peniel, qui est appelé la face de Dieu, le lieu où on fait face à Dieu, où on est face à face avec Dieu, la face de Dieu, le lieu qui est appelé la face de Dieu, c'est d'abord le lieu où on demeure seul. La face de Dieu se contemple seul. C'est important de savoir que dans notre vie chrétienne, on serait un jour amené à voir cette rencontre seule. Rappelez-vous, Jésus-Christ à Gethsémané est resté seul. Quand Moïse devait commencer sa mission en Égypte, il est resté seul devant le buisson ardent. On a besoin de comprendre que des fois, on a besoin d'être seul. On ne peut pas échapper à ce temps-là où ce n'est plus un pasteur, ni un bûcheron, ni un prophète, mais c'est vous-même face à face avec Dieu pour vous conduire à contempler quoi? À contempler la face de Dieu. Il y a des expériences personnelles par lesquelles nous devons absolument passer. Et ces expériences n'ont pas vocation à nous détruire. Elles ont vocation plutôt à nous construire. Jacob est demeuré seul. N'ayez pas peur, un moment donné de votre vie, d'être seul. Je me souviens de l'histoire, parce que je lis sur l'histoire de ceux qui ont réussi. Un richissime, je sais plus, arabe, j'ai oublié. Il a failli, c'était en termes de milliards de dollars. Lorsqu'il doit prendre une décision importante, il s'isole au désert. Et il a ses quatre corps très loin et il marche seul. Parce qu'il doit prendre une décision extrêmement importante. Dans votre vie, il va arriver un moment donné où vous serez amené à prendre des décisions. Vous pouvez demander l'avis des uns et des autres. Des conseils auprès de vos amis, de d'autres personnes. Mais la décision finale vous reviendra. C'est une porte importante. Comment posséder l'héritage? Il faut passer par Peniel qui est la face de Dieu. Mais dans la face de Dieu, on doit apprendre à rester seul. Il est dit, Jacob resta seul. Les conseils ont vocation à nous donner des informations complémentaires. Mais la décision vous appartient. C'est vrai pour le mariage. Et des fois, quand une jeune fille est sollicitée par un garçon, elle demande l'avis de beaucoup de personnes, dit le monsieur n'est que bizarre, ça sent pas bon. Non, il faut prendre ta décision seul. C'est important, à un moment donné de sa vie, de prendre sa décision seul, en son âme et conscience. C'est important. Pour marcher avec Dieu, à un moment donné, il faut dire, je prends ma décision seul. J'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Advient que pourra. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, et notamment au CM2 après, parce que monsieur Comédie, quand j'étais à l'école primaire, je suis d'une famille protestante, méthodiste. Et puis je me suis converti et j'ai commencé à fréquenter l'église évangélique. Et mon père me menaçait. Il me menaçait pour dire, toi tu es parti, c'est les Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si jamais tu échoues, on va te renvoyer ici. On va te faire ci, on va te faire cela. Mais ma décision était là. J'ai eu des menaces fortes, une grosse pression. Mais c'est moi-même qui avais décidé de marcher avec le Seigneur. Je n'ai pas cédé devant les pressions. C'est moi seul qui ai pris ma décision et je vais l'assumer. Et vous voyez, quand nous sommes à mesure de rester seuls, Dieu sera avec nous. Tant qu'on peut avoir des soutiens à gauche et à droite, Dieu ne sera pas avec nous. Mais quand on est seul, Dieu vient avec nous. Vous voyez, Jacob était resté seul. Et qui est venu? Dieu est venu avec lui. Il faut dire amen avec moi. Quand Moïse était seul devant le buisson Adam, Dieu lui est apparu. Quand Jésus-Christ était seul au jardin de Gethsémané, des anges ont été envoyés pour le secourir. À un moment donné de votre vie, même si vous êtes marié, vous serez amené à prendre des décisions seul. Vous priez seul, face contre, criant à Dieu. À un moment donné, la puissance de Dieu va venir et Dieu va vous parler. Vous savez, quand Dieu vous parle à vous-même, d'une manière personnelle, d'une manière consciente, votre foi est forte, elle est puissante, parce que ce n'est plus par rapport au conseil d'un homme ou d'une femme, mais c'est par rapport à votre propre conviction. C'est pourquoi la porte de Péniel est une porte importante. La porte où on voit la face de Dieu, c'est la porte où on reste seul. Deuxième aspect de Péniel, c'est le lieu du brisement. Ouais, Jacob était fort. Il voulait des choses, il était très fort. Mais on voit que ce qui faisait sa force a été brisé. C'est aussi le lieu du brisement. Attention, quand il parle de brisement, je ne parle pas de brisement des os ou du pied. Je parle de brisement de ce qu'on a comme orgueil. Comme des fois, on est sous nos chevaux. Et on est fort. Et on pense qu'on est fort. On pense qu'après nous, il n'y a rien. Si on veut voir la face de Dieu, on doit passer par la porte du brisement. Vous voyez, à Péniel, vous avez la porte, la face de Dieu. C'est la face de Dieu. Un, on apprend à rester seul. Deuxièmement, c'est le lieu où on connaît le brisement. Le brisement est nécessaire. Le brisement est nécessaire. Tant qu'on n'a pas été brisé, on est sûr de soi-même à 100%. Et on pense que le monde tourne autour de nous-mêmes. Ce sont les personnes qui sont très orgueilleuses, qui sont très fières, qui marchent sur les chevaux, qui méprisent, qui injurent, qui insultent, qui n'ont aucun respect, qui manquent du mépris. Mais lorsque Dieu veut t'amener très loin, il va arriver à un moment donné où il va te briser. Comme à Gethsémané, il te brise là où tu penses être fort. Casse l'appui. Pourquoi? Mais parce que tu lui as fait appel. Tu as dit à Dieu, viens et viens te glorifier dans ma vie. Et quand Dieu vient se glorifier dans ta vie, il faut qu'il soit le seul à être glorifié. Mais si toi déjà tu es glorifié, comment lui va se glorifier? Je reprends. Si toi tu es déjà glorifié, Dieu lui va se glorifier où? Puisque toi tu es déjà glorifié. Oh, ce matin, que Dieu se glorifie dans ta vie. J'aimerais voir la gloire de Dieu. Vous voyez, tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu sont des hommes qui ont été brisés. Ce sont des hommes qui ont été brisés. Leur appui a été brisé. Ils se retrouvent seuls devant Dieu. Ils disent, Seigneur, je suis brisé, mais je compte sur toi. Vous voyez, quand nous connaissons le brisement, c'est que Dieu nous conduit vers le relèvement. Ton amen est faible. Le brisement conduit au relèvement. Quand tu as été brisé, profondément brisé, Dieu est prêt, maintenant tu es prêt à être relevé. Le brisement produit forcément le relèvement. Moi, je veux que la grâce que tu vas avoir, je voudrais que la richesse que tu vas avoir, je veux que la promotion que tu vas avoir, je veux que tout ce que tu vas avoir soit le résultat de la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut dire amen. Ce que je veux avoir, ce que je suis en train de devenir, ce que tu es en train de devenir, ce que tu vas devenir, je veux que tu sois le fruit de la grâce de Dieu, l'action de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, là où je suis assis, ce que je vois, ce que j'ai, où je suis, je parle de ma personne, hein, je parle comme voilà, c'est l'action de Dieu dans ma vie. Et quand ça vient de Dieu, aucun homme ne pourra te l'arracher puisque tu es passé par le brisement. Le brisement a vocation à conduire dans le relèvement. Si ce matin ou depuis quelque temps, tu passes par une période de brisement, il faut dire à Dieu, achève ton brisement, mais après il faut me relever. Yes. Quand Dieu finit d'agir et de faire le brisement, attends-toi au relèvement. Dieu relève ta tête et relève ton nom. En réalité, on ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Chers frères, chers sœurs, les fruits que tu vas porter seront le fruit de ton brisement. De sorte que Dieu se glorifie dans ta vie. Troisièmement, à Péniel, à Peniel. C'est le lieu où nous passons, c'est aussi le lieu de l'épreuve de la détermination. Le lieu de la détermination. Peniel, le lieu où on reste seul. Deuxièmement, le lieu du brisement en vue du relèvement. Brisement en vue du relèvement. Troisièmement, le lieu de la détermination, où on fait preuve de détermination. J'en ai déjà parlé, mais je vais encore revenir sur cela. Le lieu où on fait preuve de détermination. Regardez ce que Jacob dit. Verset 26. Il dit, l'ange dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et ils ont lutté. Ouais, Jacob était déjà blessé. Sa hanche était cassée. Mais Jacob tenait. Il a vu que c'était vraiment le lieu où il allait être béni. Chers frères, chers soeurs, je veux que nous encourager à faire preuve de détermination. J'en ai parlé il y a deux dimanches en arrière, mais je reviens encore sur cela parce que c'est le passage qui m'a inspiré. En toute chose, il faut faire preuve de détermination. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui sont déterminés, qui sont résolus. Ne soyez pas des personnes qui sont dans l'incertitude. Oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne sais pas très bien ce que je veux. On verra. Non, il faut être déterminé. Jacob voulait être béni. Il était résolu. Il était déterminé. Contrairement à ce qu'on pense dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes ont été bénies parce qu'elles étaient des personnes déterminées, être acharnées. Ouais, quand on est déterminé, on est acharné au travail. On ne se lasse point de recommencer parce qu'on sait qu'on a fixé, on s'est fixé un objectif. Ce qui compte, ce n'est pas le départ. Qu'est-ce qui compte? C'est l'arrivée. Donc vous voyez que quand vous avez ça en vous, comme Jacob, vous direz, je suis déterminé à arriver au bout du chemin et je vais absolument y arriver. Quatrièmement, à Peniel, c'est le lieu où il y a une, c'est le lieu de la transformation ou de la mutation. À Peniel, devant la face de Dieu. C'est le lieu où on passe par la période de la transformation ou de la mutation. Transformation dans nos pensées, dans nos façons de parler, dans nos manières de regarder la vie. Vous trouvez ça où? Je cite le passage exact. Le verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. C'est le lieu où il y a un changement, une mutation. Le lieu où on remporte la victoire. Sixièmement, on va d'abord aller sur le quatrièmement. Le lieu de la mutation. Il y a une mutation qui se produit. Tout à l'heure, quand je priais, j'ai vu une mutation se faire dans la vie de certaines personnes. J'ai vu les vieilles peaux là, un peu comme un serpent fait. Bon, je n'ai pas vu prendre l'exemple d'un serpent, mais j'ai vu des mutations se faire, des vêtements qui tombaient, et une personne passait par une phase de mutation. Jacob, il s'appelait Jacob. Jacob signifie trompeur. Et l'ange fait exprès de demander son nom. L'ange connaît son nom. Parce que l'ange a été envoyé par Dieu. On le voit après, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu as lutté avec Dieu. Donc en fait, l'ange était l'envoyé de Dieu. Donc là, il savait comment Jacob s'appelait. Vous êtes d'accord avec moi? Jean demande son nom. Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, très bien. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais tu t'appelleras Israël. C'est un changement, une transformation qui se produit. Cet homme qui était avant attaché à l'argent, qu'on appelle trompeur. Dieu dit, à partir de maintenant, ton nom va changer. On ne t'appellera plus Jacob. On va t'appeler Israël. À Peniel, Dieu change notre nom. Ça veut dire le nom est la première manifestation de l'identité de quelqu'un. Quand on dit, décris ton identité, tu dis, je m'appelle Gadji Abraham. D'abord, avant de dire ce que tu fais, où tu es né, quand tu es né, si tu es une femme et tout ça. La première chose, d'abord le nom, prenez vos canentés. Vous verrez que la première chose c'est quoi? Non, regardez, prenez vos canentés, enlevez ça, prenez vos canentés. On va passer à un cas pratique. Prenez vos canentés, il y a quoi dessus? Première chose, c'est quoi? Votre nom. C'est bon, ne prenez pas ça, laissez comme ça. Donc, Nathan Nelson vient après. C'est d'abord ton nom. C'est pourquoi, en droit, le chemin de nom est important aussi. On parle même de relèvement de nom. Et en droit, il est interdit de donner des noms qui ont une signification bizarre. Il y a des noms qu'on ne donne pas. Si ton nom est bizarre, tu peux aller à la justice et dire, mon nom est bizarre, je veux le changer. Ce matin, si ton nom est bizarre dans le monde spirituel, ton nom va changer au nom de Jésus-Christ. Le changement des noms est une étape importante. C'est une mutation spirituelle, c'est une transformation spirituelle. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, tu n'es plus Abraham, qui est quand même intéressant dans la signification, qui veut dire père élevé. Parce que tu es déjà élevé, tu deviens Abraham, père du multitude de nations. Et quand son nom a été changé dans les temps qui ont suivi, Abraham est devenu fécond et fertile. Je déclare ce matin que ton nom spirituel va être changé et Dieu te donne un nouveau nom. Tu vas porter un nouveau nom qui va exprimer ton identité, ton changement, ta vision et ce à quoi tu t'attends. Il y a des noms qui n'ont pas de sens. Brigitte signifie quoi? Brigitte, ça veut dire quoi? Brigitte. Ça veut dire quoi? Il faut changer de nom. Ce matin, porte un bon nom spirituel. Moi, je m'appelle Abraham. Ça veut dire père de multitude. Il y a un nom qui signifie Alexandre. Ça veut dire quoi? Alexandre, ça veut dire quoi? Ce matin, change de nom. Il faut prendre un nom spirituel. Annick veut dire quoi? Annick, ça veut dire quoi? Annick. Quadio veut dire quoi? Quadio. Ou Gaspard, et de ce nom-là. Ce matin, il faut changer de nom. Digbeuf signifie rien du tout. Digbeuf veut rien dire. Ce matin, il va faire opération changement de nom. Parce que quand ton nom change dans le spirituel, ton nom change dans le naturel. Tu es avec moi, Seigneur, je change de nom. Si sur le plan spirituel, mon nom avait une influence négative, maintenant même, je change de nom. Maintenant, donne-toi un nouveau nom. Non, l'ange a dit à Jacob, tu n'es plus Jacob. Jacob, ça veut dire trompeur. Tu vas t'appeler Israël. Et remarquez bien, la puissance du changement de nom de Jacob, cela a changé totalement. Ouais, Jacob a donné son nom à un peuple. Quand on dit le Dieu d'Israël, c'est d'abord le nom de qui? C'est d'abord le nom d'un homme. Aujourd'hui, quand on dit Israël, on pense à un peuple. C'est ça? Mais Israël, ce n'est pas d'abord un peuple. Israël, c'est le nom de l'individu. Ouais, le changement a été tellement profond que, de manière tout à fait surnaturelle, son nom a été, Dieu a reconnu à travers le nom d'Israël.
En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous venez de suivre a été donné par le pasteur Gadji Abraham. Pour toute information relative à ce message, veuillez nous contacter au 00225 02 02 81 91 ou au 00225 07 44 12 44. À très bientôt.